m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Bonjour, bonsoir. Quand nous l'avions reçu au printemps 2017, nous étions loin d'imaginer à quel point son premier roman, La Tresse, allait devenir le phénomène littéraire de l'été suivant et même au-delà, puisqu'il s'est vendu à quelques 2 millions d'exemplaires. Un album pour enfants, un film et un roman plus tard. La voici de retour avec une autre histoire, toujours aussi émouvante car truffée de ces petits instantanés qui nous bouleversent. Une poignée de main qui scelle une amitié, un simple nom écrit sur le sable. Et c'est vrai qu'elle est bouleversante, cette histoire de femme, toujours une histoire de femme, qui à travers le récit d'une reconstruction est aussi et peut-être surtout un formidable plaidoyer pour l'émancipation et l'éducation. Le cerf-volant de Laetitia Colombani est paru chez Grasset et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Laetitia Colombani.
Bonjour Jean-François.
Le premier personnage que le lecteur découvre s'appelle Léna. Léna, elle est enseignante. On comprend très vite qu'elle a vécu un drame qui continue de la hanter jusque dans ses rêves, qu'il s'est donc passé quelque chose de très grave dans sa vie, et que c'est pour se reconstruire donc que Léna a décidé de partir loin de la France, de partir en Inde. Alors partir pour tourner une page, pour construire une autre étape de sa vie, et se reconstruire soi-même, ça arrive, hein, c'est une chose qui arrive. Mais pourquoi partir en Inde ?
Léna, elle vit une tragédie, elle survit à une tragédie, et effectivement, elle a besoin de s'exiler, de tout quitter, de perdre ses repères, de s'éloigner de sa vie en France, de sa vie d'enseignante. Et donc, elle part là-bas en Inde parce que c'est un pays qu'elle avait souhaité visiter. Ça faisait partie de ses projets de jeunesse avec son mari. Ils avaient prévu un jour d'aller visiter l'Inde et puis ce projet-là s'est perdu, comme tout un tas de projets de jeunesse que l'on oublie faute de temps, faute de disponibilité. Et elle veut réaliser ce projet-là à ce moment-là de sa vie, qui est un moment de bascule, un moment charnière. Elle est en perdition et elle va tenter de se reconstruire là-bas.
Et elle choisit le Tamil Nadu, plus précisément la côte de Coromandel sur le golfe du Bengale. Un endroit dont vous dites vous-même qu'il est imprononçable, ce dont le journaliste radio que je suis ne vous remerciera jamais assez. Alors je vais essayer. Mahabalipuram, c'est
bravo,
bon.
Bravo, c'est
voilà,
très bien.
C'est bon, je me suis entraîné. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité installer votre récit, Laetitia Colombani, précisément à cet endroit-là ?
Mahabalipuram, c'est un endroit que j'ai visité et qui m'a paru intéressant. Il n'est pas très loin de Chennai et c'est à la
fois,
voilà. Et c'est à la fois un endroit très touristique où on croise des cars entiers de touristes qui viennent du monde entier.
Oui, il y a des temples labellisés UNESCO qui est un site du patrimoine mondial.
Oui,
donc c'est
un endroit
du monde.
Oui, c'est un endroit très très riche de culture, d'histoire et en même temps, c'est un endroit où vivent une communauté de pêcheurs extrêmement pauvres, des intouchables. Et il me semblait que ce contraste-là, entre l'affluence touristique, ces occidentaux, ces étrangers qui viennent visiter l'Inde, et puis les locaux, ces intouchables qui pêchent du poisson pour se nourrir, eh bien que ce contraste-là, il serait intéressant pour créer mon histoire.
Vous connaissez bien l'Inde, Laetitia Colombani ?
Oui, je connais bien l'Inde. J'ai voyagé un certain nombre de fois là-bas, dans différentes parties du pays. Oui, du nord au sud.
Donc vous y étiez allé, je crois, pour écrire La Tresse. Hein, on en avait parlé ici oui, même. Votre premier contact, si je me suis bien renseigné, c'est 2007 pour un premier film, votre premier film, À la folie, pas du tout, qui avait été racheté par Bollywood, qui voulait en faire un remake. Et vous écrivez que quand Léna, donc votre personnage, arrive en Inde, à l'aéroport de Chennai, ce pays lui saute à la gorge comme un animal enragé. C'est ce que vous avez ressenti la première fois ?
Ah oui, je me souviendrai toute ma vie du premier contact avec l'Inde. J'avais débarqué seule au milieu de la nuit à l'aéroport de Bombay et je me suis retrouvée devant ces trottoirs entiers recouverts d'enfants, d'hommes, de femmes qui dormaient sur le bitume, à même le bitume. Ça a été le premier contact. Et puis cette vie incroyable, ce bruit, cette foule partout, même au milieu de la nuit. Oui, l'Inde vous saute à la gorge littéralement.
Et vous utilisez la métaphore de la fourmilière en particulier.
Oui, oui, absolument, parce que ce qui surprend en Inde, c'est la densité de la foule, le nombre de personnes, de jour comme de nuit. Et l'Inde, c'est un pays qui ne dort pas, qui ne dort jamais, où rien ne s'arrête, ni le bruit ni le monde. Et ça c'est très 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 dépaysant, très étonnant pour nous occidentaux.
L'Inde rend fou, hein, c'est une phrase qu'on entend souvent et que vous citez d'ailleurs dans le roman. Vous avez compris en arrivant là-bas ce que ça voulait dire ?
Pour moi, oui, je comprends le sens de ces mots parce que l'Inde est un pays de contrastes, je dirais même de contradictions constantes. Et on passe de paysages sublimes, magnifiques, à une réalité parfois effroyable. On a des images, on a des odeurs, on a plein de choses en tête, en soi, quand on voyage en Inde. Et certaines personnes ne le supportent pas et certaines personnes deviennent folles. Moi j'ai lu des écrits là-dessus, notamment de certains médecins qui avaient travaillé en Inde et qui expliquent comment certains étrangers, en arrivant là-bas, décompensent de façon assez brutale et deviennent fous, en tout cas le temps de leur séjour en Inde.
Oui, il y a une scène très très forte, hein, c'est quand Léna rencontre une mendiante dans la rue et elle se rend compte vraiment de l'importance de la misère qu'elle n'avait pas forcément imaginée et qui surgit comme ça devant ses yeux. Et c'est donc dans ce pays qui rend fou que Léna a décidé donc de se ressourcer, on le disait, de trouver une nouvelle énergie pour se reconstruire après le drame qu'elle a vécu. Alors elle va pas très bien quand elle arrive sur place, elle dort mal, elle fuit la foule et elle préfère aller sur la plage au petit matin. Nous sommes à la page 28 de votre roman.
Une pensée la traverse quelquefois tandis qu'elle gagne le large. Il suffirait de pousser un peu plus loin, de demander à son corps épuisé un ultime effort. Il serait doux de se fondre dans les éléments, sans bruit. Elle finit pourtant par rejoindre la rive et remonte à l'hôtel où le petit déjeuner l'attend. De temps en temps, elle aperçoit un cerf-volant près de la ligne d'horizon. C'est un engin de fortune, maintes fois rapiécé, tenu par une enfant. Elle est si frêle et si menue qu'on dirait qu'elle va s'envoler, cramponnée à son fil de nylon comme le petit prince à ses oies sauvages, sur cette illustration de Saint-Exupéry que Léna aime tant. Elle se demande ce que la gosse fait là, sur cette plage, à l'heure où seuls les pêcheurs sont levés. Le jeu dure quelques minutes, puis la petite fille s'éloigne et disparaît. Ce jour-là, Léna descend, comme de coutume, les traits tirés par l'insomnie, un état auquel elle s'est habituée. En elle, la fatigue s'est installée. Elle est ce picotement autour des yeux, ce malaise vague qui la prive d'appétit, cette lourdeur dans les jambes, cette sensation de vertige, ce mal de tête persistant. Le ciel est clair, d'un bleu qu'aucun nuage ne vient troubler. Lorsqu'elle tentera par la suite de reconstituer le fil des événements, Léna sera incapable d'en retracer le cours. A-t-elle présumé de ses forces ou délibérément ignoré le danger de la marée montante, le vent qui venait de se lever dans l'aube naissante? Alors qu'elle s'apprête à rentrer, un courant puissant la surprend, la ramène vers le large. Dans un réflexe de survie, elle essaye d'abord de lutter contre l'océan. Vaine tentative, la mer a vite raison de ses efforts, du maigre capital d'énergie que des nuits sans sommeil ont largement entamé. La dernière chose que Léna distingue avant de sombrer est la silhouette d'un cerf-volant, flottant dans un coin de ciel, au-dessus d'elle. Lorsqu'elle rouvre les yeux sur la plage, un visage d'enfant lui apparaît. Deux prunelles sombres la fixent, ardentes, comme si par l'intensité de ce regard, elle tentait de la ramener à la vie. Des ombres rouges et noires s'agitent, échangent des interjections affolées, dont Léna ne saisit pas le sens. L'image de l'enfant se brouille dans le tumulte général, avant de s'évanouir tout à fait, au milieu de l'attroupement en train de se former.
Et un lien très fort va naître, Laetitia Colombani, entre Léna et cette petite fille qui, en donnant l'alerte, lui a sauvé la vie. Une petite fille qui a 10 ans, quand commence votre récit, et qui travaille dans un daba. C'est quoi un daba ?
Alors un daba, c'est un petit restaurant de rue ou de route. C'est des petits restaurants qui sont comme ça au bord de la route, qui proposent une cuisine très simple, une cuisine traditionnelle, aux locaux et puis aux touristes qui se présentent là.
Donc c'est la vraie cuisine indienne, quoi. Celle, pas forcément celle que l'on découvre dans les grands hôtels.
Oui, c'est une sorte de cantine indienne. En fait, c'est la vraie cuisine traditionnelle indienne.
Et donc c'est là que travaille cette petite fille. Elena va découvrir combien le travail des enfants, à travers cet exemple-là, combien le travail des enfants est une réalité au quotidien en Inde. Vous écrivez, Laetitia Colombani, que l'Inde, c'est le plus grand marché de main-d'œuvre infantile au monde. Et pas seulement dans le textile, comme on peut le penser.
Oui, les enfants, il y a des millions d'enfants en Inde qui travaillent parfois dès leur plus jeune âge. à toutes sortes d'activités. On les croise, oui, dans les restaurants. On connaît ces terribles usines à textiles, hein, notamment dans le nord du pays, où ils sont enchaînés à des métiers à tisser. Mais ils sont aussi serveurs, conducteurs de vélo-taxi. Ils ramassent le riz, ils ramassent les noix de cajou, ils ramassent les cannes à sucre. En fait, les enfants sont présents dans de très, très nombreuses exploitations agricoles, industrielles. Et ce travail-là des enfants, c'est une réalité qui moi, m'a bouleversée quand je suis allée là-bas.
Et pourtant, dans les textes de loi, c'est interdit jusqu'à 14 ans de travailler.
Oui, alors, la loi interdit le travail des mineurs de moins de 14 ans, mais, il y a un mais, c'est-à-dire que la loi autorise ce travail si il est fait dans le cadre d'une entreprise familiale. Or, 80% des enfants exploités le sont par des parents, des cousins, des oncles et tantes, etc. Des membres de leur clan, en quelque sorte. Et du coup, cette petite clause, elle rend caduque cette loi qui n'est pas du tout appliquée.
Mais vous allez loin, puisque vous parlez quand même d'esclavage moderne. Ce sont des mots qui claquent, ce sont des mots extrêmement forts, l'esclavage moderne. Ça veut dire qu'ils sont taillables et corvéables à merci, ces enfants? Ça veut dire qu'ils ne sont pas payés? Ça veut dire qu'ils travaillent gratuitement?
Ils sont parfois payés en nature. Parfois, on leur donne un petit peu de riz, on donne un petit salaire aux parents. Et je parle d'esclavage infantile parce que oui, certains enfants travaillent toute la journée, 7 jours sur 7, toute l'année. Je parlais de ces usines textiles où on les enchaîne au métier à tisser. Il y a aussi des enfants qui roulent des cigarettes. Alors les petites cigarettes, les cigarettes indiennes, les bidis, il faut savoir qu'elles sont produites majoritairement par des femmes et des enfants. Hein, il faut rouler 1000 bidis par jour pour obtenir quelque chose comme 1 euro, l'équivalent d'un euro. Donc cette main-d'œuvre-là infantile, elle se chiffre en millions d'enfants. Et bien entendu, ces enfants-là ne vont pas à l'école, ne sont pas instruits, donc n'ont aucune possibilité de sortir de cette condition-là.
Voilà, et ça, évidemment, l'enseignante Kelena en est particulièrement touchée, particulièrement meurtrie, particulièrement révoltée aussi. Elle ne sait pas lire et écrire, hein, cette petite fille qui l'a sauvée. Et pour la remercier, Elena va s'efforcer de le lui apprendre. Alors, elle lui offre un carnet et un stylo. Elle écrit avec elle des mots sur le sable de la plage. Il y a comme ça des scènes qui sont extrêmement courtes, hein, 4, 5, 6 lignes, mais qui sont vraiment très, très émouvantes, on pourrait presque dire aussi poétiques, comme celle-ci, page 71.
Un jour, sur le sable mouillé, elle trace 6 lettres d'un mot que Léna ne connaît pas. C'est un nom qu'elle écrit pour la première fois. Un nom dont Léna ne tarde pas à comprendre qu'il est le sien, le vrai. Celui d'avant le voyage, d'avant la conversion. Celui que ses parents lui ont donné et qu'on lui interdit de mentionner ici, car il trahit sa naissance, son rang, sa communauté, car il dit d'où elle vient et qui elle est. Comme si un pacte invisible les liait désormais, la fillette glisse sa main dans celle de Léna. Celle-ci contemple, émue, ce prénom révélé qui rime avec le sien.
Je laisse le lecteur découvrir quel est ce prénom, Laetitia Colombani. Disons que ceux qui vous connaissent bien, ça va faire tilt, quelque part, parce que, bon, quand on a lu la tresse, on se dit, il y a une résonance. Est-ce que, d'une certaine façon, le cerf-volant, et c'est la suite de la tresse?
Le cerf-volant, je dirais, reprend un des 3 fils de la tresse, puisque la tresse se découpait en 3 récits dans 3 parties du monde, l'Inde, la Sicile et le Canada. Et j'ai eu envie pour le cerf-volant de reprendre le fil indien de cette tresse. Et donc, d'une certaine manière, le cerf-volant est la suite de la partie indienne de la tresse.
Oui, c'est d'ailleurs ce que suggère aussi la jaquette du livre, qui a un graphisme extrêmement, extrêmement proche. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en train de faire naître une série? Laetitia Colombani?
C'est pas quelque chose qui était du tout prévu de ma part. En fait, ce livre est le fruit de rencontres, de coïncidences qui m'ont fait faire des rencontres qui m'ont beaucoup marquée. Et donc, j'ai décidé de donner une suite à certains des personnages de la tresse, effectivement. Je n'ai rien de prévu pour l'avenir. Je laisse aussi la vie me tendre des perches. Mais ce n'est pas exclu, non.
ਅੱਖ ਆਪ ਦੇ ਬਰੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਲਈ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਟੋਪ ਦੇ ਬਰੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਲਈ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿੰਮੀ ਚੁਨੂ ਮਾਤ ਪਾਵਾਂ ਹਾਈ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੀ ਜਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿੰਮੀ ਚੁਨੂ ਮਾਤ ਪਾਵਾਂ ਠੋਡੀ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰ ਜੇ ਹਾਈ ਤੋਂ ਅਲੜ ਟੋਪ ਦੇ ਬਰੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਲਈ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਟੋਪ ਦੇ ਬਰੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਲਈ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ
Fulkari, c'est le titre de cette chanson de Ginny Mai, une chanteuse indienne du Punjab. On n'est pas du tout dans la même région de l'Inde, hein, mais cette chanteuse, elle appartient à la caste des intouchables, les Dalits, hein, comme on dit en Inde, d'où sont issus la plupart des personnages de votre roman, Laetitia Colombani. Et à vous lire, on a vraiment l'impression que la montée en puissance de l'économie indienne, que chacun reconnaît depuis des années maintenant, n'a absolument pas eu d'impact sur le quotidien de la vie de ces intouchables.
Non, c'est vrai que la société indienne est encore très clivée. Les intouchables sont considérés comme impurs par leur naissance, hein, et donc sont discriminés par le reste de la population. Et étrangement, cette situation n'évolue pas ou très peu. J'ai moi-même tissé des liens dans la communauté intouchable. J'ai aujourd'hui des amis intouchables qui m'expliquent que les discriminations continuent. Il est très difficile d'y échapper parce que la caste est notée sur le certificat de naissance. Et dès que quelqu'un va se présenter pour obtenir un poste, par exemple un travail, eh bien on va lui demander son certificat de naissance et tout de suite on va voir apparaître sa caste ou sa non-caste, puisque les intouchables sont même considérés comme hors caste, comme en dessous des autres castes. Donc c'est très très compliqué d'échapper à ça et c'est très difficile d'évoluer puisque finalement cette discrimination elle est instituée par la religion hindoue. C'est la religion qui a placé les brahmanes tout en haut de l'échelle des castes et puis les intouchables tout en dessous. Et donc pour l'instant la société évolue mais extrêmement lentement et les violences à l'encontre des intouchables, eh bien elles se poursuivent.
Alors, il y a une façon peut-être quand même d'y échapper, à vous lire, c'est de se convertir. Ce qui est arrivé à deux personnages majeurs du livre, les patrons hein, de cette petite fille qui a sauvé Léna. Ils se sont convertis au christianisme, ils ont adopté des prénoms chrétiens, donc ils ne sont plus du tout des prénoms hindous, et c'est pour ça qu'ils ont appelé la petite fille qui sert donc au restaurant, Oli, ce qui signifie sainte en anglais. La conversion, c'est très romanesque, ou bien c'est la réalité vécue par certains intouchables pour justement quitter leurs conditions.
Ah, c'est une réalité. C'est une réalité qui concerne même des millions hein, d'intouchables qui ont fait ce choix. On parle même de conversion massive, de grandes cérémonies de conversion collective, où des centaines de personnes se convertissent en même temps. Parce que c'est vrai que le fait de changer de religion, ben, comme je le disais, le statut, l'intouchabilité, elle a été instituée par la religion hindoue et le fait de changer de religion permet en quelque sorte de s'extraire de ce système des castes, de n'être plus considéré comme appartenant au système des castes. Donc il y a beaucoup de conversions vers le bouddhisme par exemple et vers le christianisme.
Alors, naître intouchable, on l'a bien compris, c'est difficile, c'est une mauvaise nouvelle à la naissance même, Laetitia Colombani, mais en plus, quand on est une petite fille, c'est un peu la double peine.
Oui, c'est la double peine parce que en Inde, l'égalité entre les sexes n'existe pas. Les femmes ne sont pas considérées comme les égales des hommes. Une femme doit obéir à son père, elle doit obéir à son mari. Je dirais même qu'elle lui appartient, qu'elle est sa propriété. Et donc, naître fille et intouchable, c'est être doublement discriminée et doublement infériorisée, si je peux dire.
Alors, il y a quelque chose qui est très très étonnant, c'est que vous nous expliquez que les intouchables, eh bien, sont littéralement intouchables, hein, si on regarde effectivement la construction du mot, donc on ne peut pas les toucher, et pourtant, on peut les violer. Et à vous lire, on a presque l'impression que ça va très très loin, puisque vous utilisez l'expression « c'est un sport national, le viol des intouchables ».
Oui, malheureusement, je n'ai pas inventé cette expression. Je l'ai découverte dans une interview d'une jeune femme intouchable qui témoignait du nombre d'agressions sexuelles dont sont victimes les femmes dalites, donc les femmes intouchables. On parle même d'épidémies de viols collectifs dans certaines régions d'Inde. Donc ces femmes, elles sont soumises quotidiennement à de grands dangers, à de grandes violences.
On sait qu'elles ne peuvent pas se défendre.
On sait qu'elles ne peuvent pas se défendre et puis surtout, on sait qu'on ne sera pas puni parce que la justice finalement condamne très très peu les criminels, surtout lorsque les victimes sont issues des basses castes. Les autorités, la police clairement ne fait pas son travail, les autorités s'en moquent, la justice ne sanctionne pas les criminels et donc les crimes se perpétuent dans une sorte d'impunité. Du coup, les femmes ont été obligées de réagir et de s'organiser face à cette grande violence dont elles sont les objets.
Voilà, il y en a une qui se bat justement contre les agressions sexuelles, pas seulement sexuelles d'ailleurs, contre les agressions tout court, hein, contre les femmes, c'est Pretty. Alors Pretty, c'est mon personnage préféré, je vous le dis tout de suite. C'est une écorchée vive, elle a un caractère plutôt explosif, on peut même enlever le plutôt d'ailleurs, un caractère explosif. C'est un personnage extrêmement attachant, qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser, aussi bien d'ailleurs pour le lecteur que pour votre personnage Léna. Mais Pretty, elle va beaucoup aider Léna dans son projet d'ouverture d'école. Nous sommes cette fois à la page 79 de votre roman.
Bien qu'elle incite les autres à parler, à dénoncer les abus dont elles sont les victimes, Pretty ne s'étend pas sur sa propre expérience. Elle se contente d'évoquer ce voisin malveillant croisé le jour de ses 13 ans. Elle avoue la douleur, la honte. Elle est froide aussi devant la réaction de ses parents qui, pour réparer le déshonneur de la famille, ont voulu la marier à l'homme qui l'avait agressée. Une trahison qu'elle n'a jamais pardonnée. Révoltée par l'indigne arrangement auquel il la poussait, elle a préféré fuir. Plus jamais ça, s'est-elle jurée. Elle est partie la nuit, chargée d'un maigre baluchon, laissant derrière elle sa maison et tout ce qu'elle aimait, ses frères et sœurs et ses amis. Seule sur les routes, elle a eu peur, faim et froid. Elle a vite pris conscience de sa vulnérabilité. Ici, les filles sont des proies. Elle tressaille aujourd'hui à la pensée de ce qui aurait pu lui arriver. Un peu partout dans le pays, les réseaux de prostitution enlèvent des milliers de gamines pour les envoyer dans le terrible quartier de Kamathipura, à Bombay, où elles sont vendues, battues et asservies. On y trouve la plus forte concentration de maisons closes au monde. Le long de la célèbre Falkland Road, il n'est pas rare de voir des fillettes de 12 ans en cage. Les plus jeunes sont les plus chères et les plus prisées. Elles ne touchent pas de salaire, doivent travailler à la chaîne jour et nuit durant des années dans des conditions d'hygiène précaires pour rembourser leur prix d'achat à la matrone du cloaque où elles sont enfermées. Un esclavage sexuel assorti de mauvais traitements sur lequel le gouvernement ferme les yeux. Parfois surnommé le paradis des hommes, l'endroit est assurément l'enfer des femmes. Les trafiquants, peu scrupuleux, savent où chercher leurs jeunes recrues et sillonnent sans relâche les villages pauvres et les usines à tapis, inépuisables viviers de leur commerce. Par chance, Pretty a trouvé refuge dans un foyer tenu par une association locale œuvrant pour la protection des jeunes filles. C'est là qu'Usha lui est apparue, à la faveur d'un reportage télévisé diffusé sur un vieux poste, un soir où, miraculeusement, l'électricité fonctionnait. Un témoignage en forme de révélation.
Et Usha, Laetitia Colombani, c'est Usha Vishwakarma, un personnage qui existe dans la vraie vie et que Pretty effectivement adulte. Comment l'avez-vous découverte, Usha ?
Usha, je l'ai découverte par des articles, des reportages sur son action. Usha, donc c'est cette jeune femme qui a été victime d'une tentative de viol à l'âge de 18 ans et qui a décidé, pour se protéger et protéger les femmes qui l'entouraient, de créer une petite brigade, voilà, une brigade d'intervention, une brigade 100% féminine. Elle a décidé de se former aux arts martiaux, aux sports de combat, et puis de former les filles qu'elle rencontrait. Et elle a décidé d'organiser voilà des patrouilles dans son village. Et puis ensuite, ce mouvement il s'est développé autour de son quartier. Et on voilà ces fameuses Red Brigades, elles sont devenues connues en Inde. Et je trouve que Usha, elle a tout d'une héroïne.
Voilà, et c'est Usha qui a servi de modèle à la construction du personnage de Preeti.
Oui, absolument. Je voulais créer de toute pièce une jeune femme indienne, une jeune intouchable au caractère explosif, comme vous l'avez dit. Et cette jeune femme, elle vit dans une sorte d'adoration pour Usha, puisque c'est cette rencontre en fait avec ce personnage qui l'a elle-même sortie d'une situation très difficile, et elle s'est construite en référence à son idole, à cette fameuse Usha qu'elle a pu rencontrer une fois. Et elle a pu, Preeti, elle-même fonder sa propre brigade dans son propre village. Et donc, elle est devenue une sorte de figure locale, voilà, connue des gens du quartier, puisqu'elle patrouille, elle fait de la moto. Et puis, elle patrouille le jour et la nuit avec ses amis de sa brigade pour venir en aide aux femmes. Et puis, pour aussi intimider certains agresseurs, pour faire régner une sorte d'ordre. Voilà, ce qui n'est pas toujours du goût de la police.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des manifestations, il y a des tracts. Hein, donc c'est la chef, au féminin évidemment, de cette Red Brigade, ce personnage de Preeti. Il y a un côté presque reine des bandits, quelque part, d'une certaine façon. Si je veux dire, la reine des bandits, Phoolan Devi, qui est aussi un personnage féminin majeur, on va dire, de la psyché indienne aujourd'hui pour nombre de femmes en Inde, et qui est aussi dans le roman à travers une poupée.
Oui, à travers la poupée de cette petite fille, donc rencontrée par Lena sur cette plage. Oui, Phoolan Devi, elle est un symbole. Elle est le symbole de la révolte d'une femme donc de basse caste, hein, puisqu'elle était elle-même intouchable, contre la puissance des castes dites supérieures. Et oui, c'est un modèle pour les petites filles là-bas. C'est un modèle pour un certain nombre de femmes qui résistent en fait chacune à leur manière à la violence de cette société.
On a besoin de modèles justement quand on se trouve dans la situation des femmes intouchables en Inde pour résister, peut-être même pour tenir debout tout simplement.
Oui, mais je pense que les modèles, ils offrent un espoir. Ils offrent l'espoir de pouvoir se sortir de cette condition, de pouvoir agir, de pouvoir résister, de ne pas être simplement une victime, de ne pas être passive, mais de pouvoir prendre aussi les choses en main. Et bon, même si Phoolan Devi, malheureusement, a connu une fin tragique, puisqu'elle a été assassinée, elle a quand même toute sa vie été active. C'est quelqu'un qui a même été députée, donc elle a connu vraiment un grand destin. Elle a transformé son malheur en force, en fait. Elle est très, très résiliente. Et ça, ces modèles-là de résilience, je pense qu'ils peuvent aider, oui, ils peuvent aider. Ils peuvent aider beaucoup de monde, oui.
Mais quand on regarde votre filmographie, quand on regarde tous les livres que vous avez écrits jusqu'ici, Laetitia Colombani, on a l'impression que ce sont les destins féminins, les destins exclusivement féminins qui vous intéressent en premier lieu. C'est vrai ?
Pour avoir beaucoup voyagé, je me suis rendu compte à quel point les femmes que je rencontrais dans toutes les régions du monde où je me suis rendue, à quel point ces femmes, elles étaient confrontées à une forme de discrimination, parfois visible, parfois invisible, confrontées aussi à de nombreuses injustices. Et ça m'a vraiment donné envie de prendre la plume pour écrire. Alors, je suis moi-même une femme et j'ai peut-être plus de facilité à m'identifier à des personnages féminins, hein, de ce fait. Et puis, je suis aussi mère, je suis aussi maman d'une petite fille. Et je crois aussi qu'à la naissance de ma fille, mon regard s'est d'autant plus aiguisé sur toutes ces réalités-là que vivent nos sœurs un peu partout dans le monde.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient éventuellement vous accuser, même si vous êtes une femme, de ne pas pouvoir justement vous mettre à la place d'une petite indienne, parce que tout simplement la culture est très différente. C'est une question qui revient très très souvent quand il s'agit de se mettre à la place de personnages afro-américains ou africains aujourd'hui de l'actualité. Peut-être demain, la question se posera aussi vis-à-vis d'un endroit comme le sous-continent indien.
Oui, c'est toute la question de l'appropriation culturelle. Et effectivement, c'est une question qui est très centrale aujourd'hui dans beaucoup de médias. Moi, je pense que ces petites filles... Moi, j'ai eu envie d'écrire pour ces petites filles intouchables parce que, aussi tout simplement, elles n'ont pas la possibilité de le faire elles-mêmes. J'ai été dans les villages, j'ai été à leur rencontre, j'ai passé du temps à les écouter, à discuter avec elles. J'ai parlé à des petites filles de 13-14 ans qui vivent dans la peur chaque jour d'être mariées. J'ai pris ce temps-là et il me semble que c'était important de porter leur voix à ma façon. Hein. Je suis bien sûr une occidentale, c'est aussi pour ça que j'ai choisi comme personnage principal de ce roman une occidentale, hein, une femme qui a mon âge, qui pourrait être moi quelque part. Elle est enseignante et elle part vivre là-bas. Je pense qu'on peut, un écrivain peut écrire sur beaucoup de sujets. Sinon, ça signifie qu'on est contraint à l'autofiction, qu'on ne peut plus écrire pour porter la voix d'autres personnes, mais seulement la sienne. Et moi, personnellement, je sais que je ne suis pas... Alors, j'aime beaucoup l'autofiction chez les autres. Il y a des merveilleux auteurs qui sont comme ça, qui font de leur propre personnalité leur personnage principal. Moi, c'est pas mon cas. Je n'aurais pas envie d'écrire de l'autofiction. En revanche, j'ai envie d'écrire pour des femmes que je vais rencontrer à l'autre bout du monde et dont la vie va me bouleverser. Je pense que je ne peux pas écrire sur tous les sujets. Par contre, je ne peux écrire que sur des sujets qui me touchent profondément, qui me bouleversent ou qui font écho en quelque chose de très intime et de très profond en moi.
Est-ce que ça pourrait aussi se traduire, puisque vous faites aussi du cinéma, Laetitia Colombani, par le tournage de documentaires cette fois-ci, un travail, on va dire, plus journalistique et pas forcément romanesque.
Alors, le travail journalistique, en fait, je le fais en préambule de l'écriture de mes romans, puisqu'à chaque fois, j'ai fait des voyages, des rencontres, j'ai pris des cahiers entiers de notes, j'ai recueilli des témoignages, et je suis passionnée par cette phase d'enquête préliminaire qui a précédé à chaque écriture de roman et de film aussi, dans mon travail au cinéma. Ensuite, je me sens résolument tournée du côté de la fiction, c'est-à-dire que tous ces témoignages, j'aime en quelque sorte me les approprier pour les retranscrire dans une histoire, les refondre dans la création de personnages au service d'une histoire. Donc je me sens plus proche de la fiction que du côté documentaire, même si cette étape d'enquête journalistique me passionne absolument avant d'écrire.
Made in India.
BMDN sur RFI avec Laetitia Colombani pour son nouveau roman Le Cerf-Volant, publié chez Grasset. Alors, autant il faut attendre la fin de la première partie du livre pour découvrir comment s'appelle cette petite fille de 10 ans qui donne l'alerte quand Léna manque de se noyer, autant on sait dès le début, grâce au prologue, que Léna a réussi son projet fou. Elle est parvenue à créer une école pour tenter de sortir les enfants Dalit de ce petit coin d'Inde, de l'analphabétisme, ce qui va pas être facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup d'autorisation à demander, surtout quand on refuse d'en passer par la corruption. Mais Léna, elle a du ressort, elle veut y aller. Elle a une foi inébranlable, Laetitia Colombani, dans l'importance de l'enseignement et de l'éducation.
Oui, moi je savais depuis longtemps que j'écrirais un jour sur l'éducation, sur l'enseignement. Je suis fille d'enseignante, hein, voilà, ma mère a travaillé dans l'éducation nationale pendant 40 ans.
Vous lui dédiez le livre d'ailleurs.
Le livre lui est dédié, absolument. Et j'ai vraiment été élevée dans le respect de l'école républicaine laïque, des valeurs de cette école républicaine qui offre à chacun une chance de s'instruire. Et c'est précisément de cela que mon personnage est investi. Léna, elle croit en l'éducation. Elle dit que c'est une arme de construction massive. Et elle veut offrir ça à cette petite fille qui l'a sauvée. Et puis, par extension, à tous ces enfants du quartier qui, comme ils sont intouchables, ne sont pas acceptés à l'école. Ou quand ils y sont acceptés, sont sujets à des mauvais traitements, des brimades continuelles.
Oui, donc l'éducation comme instruction, comme apprentissage, mais aussi comme instrument d'émancipation, ce qui est évidemment très important aussi quand on est une fille. Et le patron du restaurant, James, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, il va essayer de freiner tout ça, parce qu'il répète à Léna cette phrase qui la glace, « Girl ». No school. Alors ça a l'air de trois petits bouts comme ça qui veulent pas dire grand-chose, et pourtant c'est extrêmement violent, c'est très ancré ça dans la tête des parents du village. Ça, les filles n'ont pas droit à l'école, on a besoin d'elles ailleurs en fait.
Oui, moi j'ai parcouru un certain nombre de villages et on voit les filles à la maison, donc s'occuper des tâches domestiques, hein, du matin au soir, s'occuper des enfants plus jeunes, aller faire la lessive, s'occuper de cuisiner, de coudre, enfin. Et finalement, on considère que ces filles, elles ont leur importance à la maison, qu'il n'est pas nécessaire de les éduquer, puisque de toute façon, elles seront mariées très jeunes, et qu'une femme n'a pas besoin de savoir lire et écrire.
Oui, et donc, convaincre les parents d'envoyer leur progéniture à l'école, c'est une sacrée gageure.
Oui, c'est pas toujours évident, alors que nous, on imaginerait que ces familles-là pourraient être très heureuses d'avoir cette opportunité-là, d'offrir à leurs enfants une éducation qu'eux-mêmes n'ont pas forcément reçue. Eh bien, en même temps, un enfant, ça représente un salaire quand il travaille, ça représente une aide précieuse à la maison, effectivement, quand c'est une fille. Et donc, Léna, mon personnage, elle va devoir négocier. Pour chaque enfant scolarisé, elle va devoir se livrer à des tractations.
Voilà. Et puis une autre entrave à la scolarisation que vous évoquez également dans le roman, c'est le mariage forcé.
Oui, ça c'est une réalité absolument terrible qui concerne encore des millions de filles chaque année en Inde. Les filles qui sont mariées dès l'âge de la puberté, alors même qu'elles n'ont parfois que 12 ou 13 ans. Et ces mariages précoces, eh bien, ils mettent un terme à toute scolarité quand c'est le cas, quand les filles sont scolarisées. Et puis, les filles partent, quittent leur famille, quittent leur village, leurs amis, leur école, pour partir parfois à des centaines de kilomètres dans la famille de leur mari, où là, elles deviennent en quelque sorte l'esclave de leur belle famille. Hein. Elles doivent obéir aux ordres de la belle-mère. Elles donnent très rapidement naissance à un enfant. Moi, j'ai rencontré des filles de 14 ans qui étaient déjà mamans. Hein. Et toute cette condition-là, eh bien, elle peut être évitée si les filles sont gardées à l'école, si on arrive à convaincre les familles de garder les petites filles à l'école.
Voilà, et c'est un argument supplémentaire, si tant est qu'elle en avait besoin, pour Léna, qui donc se bat pour scolariser les petites filles de cet endroit. Vous le disiez il y a un instant, Laetitia Colombani, votre maman est enseignante. Est-ce que vous-même, c'est une idée que vous avez caressée ?
Non, en fait, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour mes enseignants. Et puis, j'étais entourée d'enseignants parce que tous les amis de ma mère étaient eux-mêmes enseignants. Pour autant, moi, j'ai rêvé très, très tôt de profession artistique. J'ai rêvé très tôt de cinéma. Être comédienne, réalisatrice, scénariste, c'était vraiment mon premier rêve d'enfants, puis de jeunes filles. Donc, je me suis tout de suite dirigée vers cette voie-là.
Et donc, vous avez fait notamment l'école Louis Lumière de Lyon, le cinéma et la littérature. Souvent, d'ailleurs, les deux se recoupent, on l'a compris, parce que vous allez adapter la Tresse au cinéma. Où est-ce que ça en est ?
Oui, on a commencé la préparation du film. Je pars dans 10 jours en repérage en Italie. On commencera par tourner cette partie italienne au mois de septembre pour ensuite aller au Canada et enfin en Inde dès que la situation sanitaire là-bas nous permettra d'envisager un tournage dans des bonnes conditions.
Donc c'est important pour vous que ce soit tourné dans les vrais décors qui correspondent à l'histoire de base du roman.
Oui, absolument. Le film est prévu, donc le tournage est prévu dans les 3 pays. Et puis dans les 3 langues aussi, hein, puisqu'on va tourner en hindi, en italien et puis la partie canadienne en anglais.
Donc l'idée, c'est aussi d'exporter ce film dans ces 3 pays-là singulièrement et peut-être même au-delà, parce que l'anglais, évidemment, c'est une langue internationale par excellence.
Oui, le roman, lui, a beaucoup voyagé. Il a été traduit dans beaucoup de langues. Et du coup, j'ai l'espoir, j'ai le rêve que le film puisse aussi être vu dans différentes régions du monde.
Et vous avez aussi, je crois, un projet de série télé, Laetitia Colombani.
Oui, j'ai un projet à l'heure actuelle d'adaptation de mon deuxième roman, Les Victorieuses, sous forme de série télé. Et ce roman, d'ailleurs, est aussi adapté en album pour les enfants. Voilà, un album qui paraîtra au mois de juin. C'est un projet que j'ai développé avec ma complice Clémence Paulet, qui est illustratrice, qui avait déjà illustré un album tiré de La Tresse, mon premier roman. Donc là aussi, c'est une façon de faire partager mon travail d'une autre manière, cette fois aux plus jeunes.
Mais la femme d'image que vous êtes, elle pense justement à l'adaptation au cinéma ou à la télévision lorsqu'elle écrit un roman ?
Non, je n'y pense
pas. Il n'y a pas d'image comme ça qui vous...
J'ai complètement des images tout de suite parce que je crois que c'est ma façon de travailler. J'ai commencé dans le cinéma et je dirais que c'est une sorte de déformation professionnelle. Je pense toujours en images. En revanche, je ne me dis pas, ça je vais l'écrire sous forme de roman pour ensuite l'adapter. D'ailleurs, c'est l'adaptation de La Tresse, elle n'était absolument pas prévue. Et je pensais même qu'elle ne serait pas possible étant donné la complexité du fait d'aller tourner dans 3 régions comme l'Inde, la Sicile, le Canada. Donc en fait, je pense mon roman en images, mais non, si je crois que si je pensais directement à une adaptation cinéma, je me mettrais trop de barrières, trop de censure, je me dirais c'est trop compliqué, trop cher, etc. Donc le roman offre une telle liberté que je me complais dans cette liberté-là.
Eh bien, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Laetitia Colombani.
Merci.
Le cerf-volant est paru, je le rappelle, chez Grasset, un livre que vous allez pouvoir gagner, vous qui nous écoutez, en répondant à la question suivante en message privé à partir de la page Facebook de l'émission, la page donc Vous m'en direz des nouvelles. La question est la suivante: où travaille la petite fille au cerf-volant? Dans quel genre de commerce? Juliette Guéguin attend vos réponses.
Vous m'en direz des nouvelles, yeah. Sur RFI.
Partons à présent à la découverte d'African Corporation, une rencontre entre les instruments de musique des pays africains et l'électro-européen. Ils sont 2 musiciens venant de 2 mondes musicaux différents, Alain Toucha, qui est DJ, et Falun Diaye, qui a appris les percussions au conservatoire, notamment le djembé. 2 univers en synchro, donc sur l'album Unity, sorti le 6 mai dernier sur toutes les plateformes numériques. Penaï Traoré a rencontré les 2 musiciens à Marseille, dans le sud de la France.
Comme des explorateurs, ils sont allés à la rencontre des sonorités et des instruments musicaux du continent africain. Ce qui était avant tout une recherche musicale a aussi été une aventure humaine. Alain Toucha et Falun Diaye.
C'était cette générosité, cette humanité en fait que j'ai revue au Sénégal. C'est tout ce qu'on peut perdre ici en Europe. Les gens sont humainement généreux et humainement bon, et ça se ressent de suite dans la musique en fait. Quand on fait de la musique, de suite on va avoir cette sensation là et donc du coup ça nous pousse nous-mêmes à aller chercher d'autres solutions aussi et d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait faire sur un autre album ou sur un autre projet.
Au début, quand on a commencé à travailler sur ce projet à travers Alain, j'ai dit pour faire la musique africaine il faut connaître l'Afrique. Donc l'idée c'était d'aller en Afrique, c'était pas de rester ici dans nos studios, essayer de convoquer des artistes pour faire, non, il faut aller à la source, il fallait que lui-même il soit sur cette initiation, donc qu'il se rencontre lui-même et pas entendre ou on m'a dit, mais d'être sur place. Donc lui ça a été la grande découverte.
« L'idée pour ces deux producteurs marseillais était de faire entendre une autre facette de la musique africaine qui n'est pas que traditionnelle. Falloun Diaye.
Le but, c'était de casser un peu ce folklore dans lequel on nous enferme en permanence, disant que l'Afrique, c'est que des musiques traditionnelles, alors que c'est complètement faux. Et je vois notamment que quand tu prends un djembé, on a toujours tendance à vous assimiler folklorique, que vous avez le costume tout taillé, tout déjà fait, quoi. Alors que non, je dis justement, les instruments traditionnels qu'on a aujourd'hui dans la musique électronique ont complètement leur sens.
Entre la douceur des mélodies venant des quatre coins de l'Afrique et le rythme dansant d'un électro-européen, la réussite de ce mélange invite au voyage dans les profondeurs de deux styles musicaux qui se dégagent dans le morceau Bognaté à mettre dans toutes les oreilles.
Nous, dans notre album, notamment un morceau avec Kankou qui raconte toutes les popées mandingues, les grands empires, ces périodes oubliées de l'histoire africaine. Elle interroge cette Afrique-là aujourd'hui parce qu'elle s'est dit, mais quel est notre héritage ? Après toutes ces richesses, tous ces royaumes, tous ces empires, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage ?
Falouane a super bien parlé, c'est un titre avec Kankou Kouyaté justement, qui elle est rentrée dans l'univers qu'on lui proposait, cet univers électronique-là qu'on lui a proposé avec une voix phénoménale, où vraiment il y a cette osmose-là, on entend d'ailleurs, elle résonne de sa puissance et de sa force, et on entend vraiment derrière toute la grandeur en fait de cette femme-là, de cette chanteuse-là, et toute la force qu'elle peut dégager aussi de l'Afrique, quoi. De toute cette profondeur qu'il peut y avoir dans une voix. C'est peut-être pas le plus dansant, contrairement à d'autres titres qu'on fait sur l'album, qu'on a produit, mais celui-ci, il a une émotion qui est formidable.
African Corporation, c'est aussi une diversité de voix et d'artistes. On retrouve sur l'album Kankou Kouyaté du Mali, Mati Diop et Big Mo du Sénégal, Salé de l'Algérie, Goodluck Ruiza de la Tanzanie ou encore Jerry Julian de la Dominique.
Penaï Traoré pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. Après une courte pause, on se retrouve demain, bien sûr, avec Bertrand Burgala pour son nouvel album Rêve Capital, chez Tricatel, bien sûr, et vous m'en direz des nouvelles.
Zoro.